Mimi, j'ai oublié mon texte pour lancer l'émission.
Pas grave, dis seulement que tu m'aimes, ça suffira.
Il y a des moments qui pourraient rester ordinaires, vraiment, des moments qu'on traverserait sans y prêter particulièrement attention. Hier, je me suis retrouvée assise en face d'un ami, un café tiédissait entre nous. On parlait de quelque chose de simple, je crois, enfin, je croyais. Et puis à un moment, il s'est tu, ça n'a pas duré bien longtemps, juste assez pour que le silence prenne quand même un peu de place. Ses doigts ont trouvé le rebord du cendrier, il tournait autour, encore, toujours dans le même sens. Il m'a semblé qu'en fait, il tentait de s'accrocher à quelque chose de minuscule pour ne pas lâcher le reste. Alors je ne l'ai pas interrompu, je regardais ce geste-là et tout ce qu'il disait à sa place. C'est souvent comme ça que les moments changent de nature, très rarement à travers les mots, plus souvent avec ce genre de détails. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas une conversation comme les autres. Rien d'a priori extraordinaire ne semblait se dire, mais parce que quelque chose d'autre se jouait ailleurs, dans ce geste-là, dans la façon dont il évitait mon regard, dans ce qui ne se disait pas finalement. Souvent ce n'est pas l'histoire qui bouleverse, c'est le détail, celui qui fait basculer un moment banal en quelque chose de vivant, celui qui nous oblige à ralentir la cadence, à regarder mieux. Je crois que c'est ça, la vie, et que ça l'est aussi quand on raconte des histoires. On peut aller loin, longtemps, très joliment, si le détail n'est pas là, quelque chose nous échappe. Et aujourd'hui justement, on va parler de ça, de ce que permet le détail, de ces moments qu'on saisit sans les expliquer, de cette manière de raconter qui fait qu'un instant devient autre chose qu'un simple instant. À travers un festival, par exemple, de courts-métrages, ici qui s'appelle 4C tout court, qui se tient à Cossé-le-Vivien, et qui défend un cinéma attentif à ces fragments-là. Et justement, dans le studio, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous avoir avec moi. Joël Viau, vous êtes le coordinateur de l'association ASPRO, qui porte le festival. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, dans la seconde partie de l'émission, ensuite, on parlera de livres, de lecture, avec le bouquin et Blabla Club, un nouveau rendez-vous imaginé par Yasmine Katabou, pensé comme un espace de discussion libre et bienveillant autour des livres ouverts à toutes et à tous. La première rencontre aura lieu ce dimanche 25 janvier à partir de 15h chez Dealer de Cookies autour du roman La femme de ménage de Freida McFadden et de son adaptation au cinéma, avec cette question en fil rouge, le livre avant le film ou le film avant le livre. Et pour terminer l'émission, eh bien, on retrouvera Priscilla pour sa chronique juridique. Un retour en grande pompe. Bienvenue dans votre émission quotidienne. C'est la JT du local qui commence. Je suis Margot. Le programme est beau, le programme est chargé. Donc je vous propose tout de suite de passer à l'entretien du jour.
Vous écoutez la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Le festival 4C tout court consacré au court-métrage se tient cette année du 25 au 31 janvier à la salle du FCC. Nous en sommes déjà à la 7e édition d'un festival à taille humaine, pensé comme un moment de rencontre autour des films avec des projections pour les familles, des séances scolaires, une soirée dédiée aux courts d'ici et un temps de clôture convivial. Je le disais, pour en parler, j'ai le plaisir de vous avoir avec moi cette année encore, Joël Viau. Vous êtes le coordinateur de l'association ASPRO qui porte le festival 4C tout court. Avec vous, on va s'intéresser à ce que permet justement le format du court-métrage et à la manière dont un festival comme le vôtre donne toute sa place aux détails, au regard, à l'instant, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, pour vous, j'avais quand même envie de vous demander, peut-être pour commencer, est-ce que c'est pas avant tout justement une question de regard, de manière de raconter le format du court-métrage ?
Ben oui, c'est forcément particulier puisque c'est quelque chose qui est très court, enfin qui peut durer entre 1 minute et 30 minutes. Et donc il faut pour les réalisateurs être efficace. C'est une bonne école de cinéma, c'est pour ça que beaucoup passent par là. C'est pas seulement des questions de moyens, mais c'est aussi une façon de faire. Et pour le spectateur, je trouve que c'est une façon aussi d'entrer dans le cinéma quand on n'a pas l'habitude d'aller au cinéma ou de pas aller voir certaines choses qui sont peut-être un peu plus difficiles. Le fait que ça soit court nous permet d'accepter plus facilement cette difficulté et d'apprécier toutes ces émotions et ces choses qu'on nous raconte, ces questionnements, etc.
Est-ce que vous diriez, je parlais tout à l'heure de détails, que finalement le court-métrage raconte moins des histoires que des moments de vie qu'on va creuser dans le détail?
Alors on a les deux, mais c'est vrai que c'est plus souvent des moments de vie, oui. On va aborder un sujet et on va aller tout de suite au fond du sujet, on va questionner, on va laisser en suspens des questions, mais c'est ce qui est intéressant, oui, tout à fait.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, c'est le festival 4C tout court qui revient donc cette année pour sa 7e édition. Est-ce qu'on peut rappeler à l'auditeur de l'autre radio comment est né le festival et puis dire quelques mots aussi sur l'association ASPRO qui porte donc le festival à Cosselvivien?
Alors ASPRO existe déjà depuis 2015, a eu plusieurs projets, mais avait surtout un objectif, c'est d'essayer d'amener à la culture le plus grand nombre, c'est-à-dire des gens qui ont déjà l'habitude d'aller dans les salles de théâtre, de cinéma, mais aussi ceux qui y vont très peu, et qui puissent se retrouver au même endroit, au même moment, et pouvoir surtout échanger. Ce qui nous intéressait, c'est que les gens ne rentrent pas chez eux après avoir vu un film sans pouvoir échanger. Et ça, c'était pour nous important. Et tous les événements qu'on a créés, ce sont des événements où on y met beaucoup de convivialité. En tous les cas, on essaie de faire en sorte que les gens puissent s'y retrouver pour voir des films, mais pour discuter tout simplement et pour se connaître, puisqu'on y vient en famille, on y vient entre amis. Mais on va se retrouver, par exemple, sur le ciné d'idées, à côté de gens qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Et on va pouvoir échanger avec eux, puisqu'ils vont manger et ils vont manger ensemble et pouvoir discuter de ce qu'ils viennent de voir.
Le festival, je le disais, se déroule donc à Cosselvivien, à Cosselvivien, dans une salle à taille humaine. Qu'est-ce que ce cadre change aussi dans la manière dont on vit les projections et les temps d'échange ensuite?
Ce que ça change, c'est que ça permet d'avoir une autre formule que dans une salle de cinéma, puisque là, on a une salle qui est une salle polyvalente, équipée correctement et qui nous permet d'avoir une qualité au niveau des projections, mais qui nous permet aussi d'accueillir, par exemple, les gens dans un espace de la salle avec un mini-concert, par exemple, à l'accueil. Et une fois qu'ils auront pris l'apéro, ils pourront passer à table, ils seront à table et pour regarder les films. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire dans une salle de cinéma, bien évidemment. Donc cette salle permet ça.
Vous avez fait le choix d'un festival qui s'étale sur toute une semaine. Pourquoi ce rythme? Est-ce que aussi c'est une volonté d'avoir différents temps dans la semaine qui s'adressent à différents publics?
Oui, ça c'est vraiment une volonté. D'abord, de créer un événement et de l'avoir sur une semaine, ça permet de pouvoir en parler davantage, que les gens aient le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis, c'était aussi l'intérêt d'aller vers plusieurs publics, puisqu'on commence avec le ciné-famille, qui est vraiment destiné aux familles. Là, en plus, on met en place des projections, des ateliers, mais on fait en sorte que les parents ne soient pas spectateurs de leurs enfants, mais qu'ils soient vraiment actifs dans les ateliers où ils peuvent créer des petits films, où ils peuvent regarder ensemble les films. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, on a, sur les jours qui suivent, on a des temps scolaires, puisqu'on est très attaché à l'éducation à l'image. Où il va y avoir des projections sur lesquelles il y aura des médiations où on pourra parler de ce qu'ils auront vu. Et il y aura aussi des ateliers. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder une image, regarder un petit film et de pouvoir avoir son propre avis et non pas se laisser influencer par ce qui se dit. Donc pouvoir ressortir d'un film, parler de ce qu'on a ressenti. Et même si ce n'est pas la même chose que le voisin, c'est quand même intéressant.
Quels sont les enjeux peut-être particuliers aujourd'hui de l'éducation à l'image? On voit que l'image est partout. Les jeunes générations sont peut-être ont un rapport probablement différent que ce que nous, on a pu connaître auparavant, un rapport différent à l'image.
Je pense que le rapport qui est différent, c'est surtout que ça va très vite, puisqu'il... Ils vont d'image en image, de site en site, de film en film, et très, 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 très rapidement. Et du coup, ne prennent pas le temps de digérer ce qu'ils voient. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est justement prendre ce temps-là. C'est-à-dire que ce qu'ils voient, ce n'est pas ce qu'on leur dit, ce qu'on leur raconte dans les films. C'est peut-être vrai, mais ce n'est peut-être pas vrai non plus, quoi. Il faut être capable de le regarder et de se dire « qu'est-ce qu'on m'a raconté là ?» Donc la différence, c'est probablement là, c'est qu'ils n'ont plus le temps qu'on pouvait avoir avant. C'est-à-dire qu'on prenait le temps de regarder un film ou d'aller au spectacle et puis de le digérer. Et aujourd'hui, ils ne digèrent plus, en fait. Je pense que c'est ça la différence.
L'expérience de la projection est si différente. On a fort accès chez nous à des films via les plateformes aujourd'hui de streaming. Mais c'est vrai que chez nous, on peut mettre pause, on peut zapper. Dans une salle, on est obligé de rester jusqu'au bout. Et des fois, cet effort, si on peut appeler ça un effort, rend l'expérience effectivement différente. On peut être surpris, étonné.
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter tout simplement parce qu'à un moment, on décroche. Donc, on est bien obligé d'aller au bout. Puis l'autre intérêt, c'est d'aller dans les salles, c'est de pas être tout seul. Parce que quand on est tout seul, oui, on peut décrocher beaucoup plus facilement. Donc, et en l'occurrence, nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'échange avec les gens qui sont à côté de nous. Quoi. C'est rencontrer des gens, c'est pouvoir échanger, parler. Enfin voilà, c'est pas simplement avaler de l'image. Et puis, on ne sait pas quoi en faire.
Le vendredi soir, il y a les cours d'ici. C'est un temps fort très attendu. Est-ce qu'on peut présenter cette soirée? Comment est-ce qu'elle se déroule?
Elle se déroule un peu comme la première. Il n'y a pas un repas comme la première, je veux dire comme le samedi. Mmh. C'est-à-dire qu'on est assis à table également. Il y a un bar, il y a de la restauration. Et on va projeter des films qui sont régionaux. Et quand on parle de films régionaux, c'est pas parce qu'ils sont régionaux qu'ils sont moins intéressants et de moins bonne qualité. Ils sont aussi intéressants. Je vois sur notre communication, c'est vrai que les tarifs ne sont pas les mêmes, mais tout simplement, c'est parce qu'il y a un repas le samedi, alors que là, il n'y a pas de repas, il y a simplement des choses possibles à manger, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on s'intéresse aux films régionaux parce que justement, il y a plein de réalisateurs, même dans notre département, et qui ne sont pas connus. Donc, on avait envie de faire un temps fort là-dessus. Et on invite un réalisateur ou une réalisatrice pour discuter avec les spectateurs.
Voilà. Comment est faite cette sélection? Est-ce qu'il y a un style particulier, un genre particulier de film? Ou est-ce que finalement, on peut se retrouver face à des propositions très différentes?
Alors, il y a des propositions très, très différentes. Hein. On peut avoir de la fiction, on peut avoir du documentaire, on peut avoir du cinéma d'animation. Il y a un groupe de sélection qui est piloté par Arthur Viau, qui est responsable de la programmation, qui lui est un professionnel, qui voit des films pendant l'année et qui sélectionne ces films. On a un thème qui est cette année la famille, qui nous permet déjà de dégager un certain nombre de films. Et c'est très diversifié. On ne s'arrête pas sur un style.
Vous en avez dit quelques mots, mais le samedi, le festival se clôture avec un ciné-dîner, donc où on mange ensemble, avant ou pendant le cinéma. Pourquoi est-ce que c'est important justement pour vous de garder ce temps fort et de le mettre autant en avant, de se dire le cinéma, on oublie peut-être que c'est aussi un lieu de convivialité, un lieu collectif?
C'est exactement ça. C'est vraiment... Quand on a créé cet événement, le ciné-dîner était la première chose qui nous intéressait, puisqu'au tout début, il n'y avait qu'une soirée qui était le ciné-dîner. Et c'est vraiment l'image de la convivialité, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens, on leur sert un apéritif, ils ont un mini-concert qui se déroule à un endroit de la salle, et après on leur propose de passer à table, et tout ça dans une décoration qui est faite par l'équipe de bénévoles, qui les plonge vraiment dans une ambiance particulière. Et on les installe à table, et là, ils sont avec leurs amis, leur famille, ou des gens, comme je disais tout à l'heure, qui ne les connaissent pas. Et c'est, avant de commencer, à regarder les films, on commence déjà par manger. Il y a un potage qui est servi, qui est fait par les bénévoles, et qui permet déjà d'échanger, de se connaître, avant de parler de cinéma, en fait. Et puis le cinéma est un prétexte, c'est simplement, on défend le cinéma, bien sûr, mais c'est parler de différents sujets. Donc, pour nous, cette soirée est très symbolique de ce qu'on a envie et que des gens qui sont des amateurs de cinéma, connaisseurs de cinéma, se trouvent en face de quelqu'un qui connaît moins le cinéma et qui, d'un seul coup, va peut-être éclairer par sa réflexion même celui qui croit savoir. C'est là que c'est intéressant. Quoi. C'est vraiment...
Un temps aussi propice au croisement des générations. Finalement, le cinéma réunit tout le monde.
Oui, croisement des générations, croisement sociaux aussi. Les gens viennent d'horizons très, très, très différents. C'est ça qui est intéressant. Oui. Je pense qu'on rassemble dans cette soirée l'ensemble de ce que devrait être la culture, je pense.
Pour l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, qui découvre peut-être pour la première fois le festival 4C tout court et qui est curieux, comment est-ce qu'on fait pour peut-être se rendre sur place? Est-ce qu'il faut réserver? J'imagine que quand on parle de repas, il vaut mieux s'inscrire en amont.
D'autant plus que cette soirée donc, du 31 est quasi pleine. Il reste une petite dizaine de places. Donc, je conseille fortement d'aller vite. Alors, il y a Eloasso en particulier. On peut, et il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas sous les yeux, mais qui doit apparaître quelque part. Mais je pense que le mieux, c'est d'aller sur Eloasso. Hein. Je cherche le numéro, je ne l'ai même pas avec moi.
Sur le site, donc, on rappelle le nom de l'association, c'est ASPRO. Effectivement, pour retrouver votre Eloasso.
Oui, alors le numéro de téléphone, c'est 07 66 20 46 02. Voilà. Et puis, vous pouvez aller tout simplement sur le site d'ASPRO Productions. Ne pas taper seulement ASPRO, parce que c'est ASPRO Productions. Et là, vous aurez tout le programme et les conditions pour réserver, etc. Donc, pour le samedi, il est grand temps de réserver.
Vous êtes également sur les réseaux sociaux.
On est sur les réseaux sociaux, oui, on est sur Facebook, on est sur Instagram, etc. Quoi, oui, on est dessus. Et puis on a notre site.
Pour terminer, est-ce que ce festival est amené à évoluer ou est-ce que finalement, on parle de festival à taille humaine, c'est aussi l'ADN du festival ?
Alors je pense qu'il est amené à évoluer, oui, mais il restera à taille humaine parce que justement, par exemple, si la soirée du 31 est complète, c'est que la jauge est limitée à 200. Pour des raisons de confort, des raisons d'organisation et des raisons de rencontre aussi. Donc ça restera à taille humaine. Il va certainement évoluer, comment, je ne sais pas aujourd'hui, mais il évoluera. Il faut qu'il évolue pour continuer à vivre de toute façon.
Est-ce qu'on peut vous rejoindre aussi en tant que bénévole, j'imagine ?
Alors là, bien volontiers, parce que le bénévolat aujourd'hui est compliqué. On n'est pas les seuls, hein. Toutes les associations se plaignent de ne pas avoir assez de bénévoles. Donc on est toujours à la recherche de bénévoles, connaisseurs ou pas de cinéma, peu importe. Il y a des tas de choses à faire et puis c'est là aussi un lieu de rencontre. Que de rentrer dans une association, de partager des choses, où on se voit dans l'année, on se voit au moment des temps forts. Oui, nous sommes à la recherche toujours de bénévoles.
Donc on rappelle à l'auditeur de l'autre radio, le festival 4C tout court commence le 25 janvier jusqu'au 31 janvier à la salle du FCC, donc à Cossé-le-Vivien. Merci beaucoup Joël d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Alors nous, on continue avec l'agité du local dans quelques instants. On parlera de bouquins et blabla club. Mais avant ça, on fait une pause musicale. Et alors, j'avais envie d'écouter avec vous MPL, Fleur Bleue. Et on se retrouve juste après.
Si parfois tu te mets en retard, juste pour cueillir un bouquet. Si t'as comme des émotions bizarres quand tu vois les saisons changer. Si tu pleures à la fin du même film depuis des années que tu t'es fait tatouer un cœur bien caché. Si quelque part au fond tu rêves que quelqu'un t'attend en secret.
Si on te dit que tu es
fleur bleue,
si on te dit que tu es
fleur bleue,
dis-toi que tu n'es pas seul
et qu'on est au moins deux.
Des grandes histoires dans les transports quand tu t'ennuies. À partir d'un échange de regards, tu t'imagines la vie avec elle, avec lui. Et si les coups de foudre t'ont fait perdre quelques années. Si parfois rien ne peut résoudre un chagrin d'amour vrai causé par une non-réciprocité.
Fleur bleue,
si on te dit que tu es
fleur bleue,
n'est pas seul
et qu'on est au moins deux. Et qu'on est au moins deux.
Si on te dit que tu es
fleur bleue,
si on te dit que tu es
fleur bleue,
dis-toi que tu n'es pas seul
et qu'on est au moins deux.
Et dis-toi qu'on est tous au fond les mêmes, mais qu'il y en a qui le cachent un peu mieux. Dans tous nos vieux carnets y'a des je t'aime.
Et dis-toi qu'on est qu'un grand champ de fleurs bleues. Et dis-toi qu'on est tous au fond les mêmes, mais qu'il y en a qui le cachent un peu mieux. Dans tous nos vieux carnets y'a des je t'aime. Et dis-toi, dis-toi,
et dis-toi qu'on est qu'un grand champ de
fleurs bleues. Fleurs bleues,
si on te dit que tu es
fleurs bleues. Fleurs bleues,
dis-toi que tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul. Et qu'on est au moins deux.
Fleur bleue, dis-toi que tu n'es pas seul,
tu n'es pas seul.
en préparant cet échange, je me suis demandé si on aimait les histoires seulement pour ce qu'elles racontent ou aussi parce qu'on n'a pas envie d'être seul avec ce qu'elles nous font. Livre, le livre avant le film ou le film avant le livre, c'est le thème de la première rencontre du bouquin et Blabla Club, du bouquin et Blabla Club, un nouveau rendez-vous qui se lance ce mois-ci, ce dimanche 25 janvier à partir de 15h chez Dealer de Cookies à Laval. Et alors, à l'initiative de ces rencontres, c'est Yasmine Katabou qui est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Yasmine, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, bonjour.
Alors je vais vous poser cette question-là pour commencer. Pour vous, plutôt le livre avant le film ou le film avant le livre, c'est quoi la première porte d'entrée dans une histoire ?
Alors pour moi, je bloque sur ça, c'est le livre avant le film, ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de détails et ça nous permet de ne pas être déçus du film, parce qu'on sait toujours que de toute façon, en regardant le film, il y aura beaucoup moins de détails, ça sera toujours plus condensé. Et en fait, selon moi, si je regarde le film avant et qu'après je lis le livre, il y a des scènes, il y a des moments, il y a des détails qui vont paraître un peu moins innés, quoi. Je trouve le détail moins persécutant. Mmh. Alors que le livre, je trouve qu'il n'y a pas de risque d'être déçu dans tous les cas, pour commencer, quoi.
Vous lancez ces rencontres, donc je le disais, le 25 janvier à Dealer de Cookies, donc à Laval. C'est dans le vieux Laval pour l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute. À l'origine de cette idée, de cette envie, c'est la passion du livre, c'est quoi ?
Eh ben, c'est carrément ça, c'est la passion du livre. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup depuis très très jeune. Quand j'étais enfant, je ne jouais pas. Je sais que ma maman me le dit souvent, j'étais toujours en train de lire. Et c'est vrai que je suis beaucoup de pages sur Insta où on parle de livres, on peut liker des stories, on peut donner son avis en commentaire. Mais je voulais vraiment quelque chose qui permettait de réunir tout le monde autour d'une passion commune, de parler de livres, de donner son avis, de pouvoir choisir les prochaines thématiques avec les personnes qui seront venues le 25. Et en fait, je voulais vraiment créer quelque chose de nouveau à Laval, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de club lecture réel à Laval. Je voulais vraiment créer quelque chose de nouveau, donner un petit coup de peps à la culture aussi à Laval, quoi.
Il y a une minute, deux, là, en commençant notre échange, je me disais, est-ce que finalement, cette idée, c'est pas aussi ne pas rester seul avec ce qu'on ressent après une histoire ? C'est important pour vous aussi, ce prolongement, finalement ? On lit un livre, des fois même un film, vu qu'on parlait de film juste avant, on a envie de prolonger un peu le moment, puisqu'on est un peu déçu quand ça se termine.
C'est exactement ça, j'avais vraiment... En fait, j'ai ce côté, quand moi je lis un livre et que je le ferme et que j'ai fini, j'ai un petit peu ce côté, waouh, qu'est-ce que je viens de lire ? Et en fait, c'est vrai que j'ai pas toujours... de moments où je peux appeler quelqu'un ou aller voir une copine en lui disant « Est-ce que tu as lu ce livre ?» Je suis obligée d'aller toujours sur les réseaux et puis c'est moins fluide d'aller chercher un commentaire où je trouve qu'on est déçu de la fin ou je suis du même avis que ce livre. Du coup, je trouve que s'asseoir tous autour d'une table dans un lieu chaleureux qui est Dealer de Cookies, je trouve ça plus sympa et ça permet le détail, ça permet l'ouverture, ça permet aussi de changer son point de vue. Donc je trouvais ça sympa de ne pas rester seul avec son idée du livre et surtout ne pas rester seul tout court. En fait, ça va vraiment créer l'ouverture aux personnes qui se sentent seules aussi de venir parler du bouquin.
On se posait la question, le livre avant le film ou le film avant le livre, est-ce que vous vous souvenez d'un livre ou d'un film qui vous a donné envie d'aller vers l'autre version justement ?
Eh ben, Everything, je sais, de Nicole Yoon, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais enfant. Donc je pense qu'il y a ce côté aussi enfant de l'adaptation du film, et j'avais lu le livre avant et j'ai regardé le film et c'est vrai que j'ai adoré le film parce que forcément il y avait des visages sur ce que je lisais et c'était un peu plus punchy, quoi. Et après je me dis que j'étais jeune, donc forcément c'était une histoire qui me parlait, donc voir les ados de mon âge vivre ce que j'étais en train de lire, tout de suite ça m'a un peu plus touchée. Mais ouais, ça reste vraiment que dans ce cadre-là. Je ne bouge pas sur le fait qu'on doit lire le livre avant, au niveau des bouquins, quoi.
Parfois, on a plaisir à entendre parler d'un livre ou d'un film qu'on n'a même pas vu. Est-ce que finalement, quand on parle d'un livre ensemble, collectivement, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression qu'on parle pas seulement du roman, mais aussi peut-être un peu plus largement de soi ou du monde dans lequel on vit ?
Exactement. En fait, c'est vraiment ce que je recherche avec ce club lecture. C'est de pousser un peu plus loin l'analyse du livre, mais aussi d'aller pousser dans la... Enfin, j'allais pas dire psychologique, mais vraiment de pousser qu'est-ce que le livre nous apporte, qu'est-ce que cette histoire nous a apporté, est-ce que ça nous a fait du bien, est-ce que ça ne nous a pas fait de bien. Et en fait, je rebondis à la deuxième thématique qui aura lieu au mois de février, ça sera sur qu'est-ce que ce livre vous a apporté. Donc en fait, les personnes pourront ramener un bouquin qui les a marqués et parler de ce livre, qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie, dans leur projet, psychologiquement parlant, est-ce que ça les a aidés sur un problème ou autre. En fait, c'est vraiment ce que je veux chercher, notamment dans la femme de ménage. Hein. Y a la violence conjugale, y a le mensonge. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de parler du livre, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce qu'on s'est retrouvé dedans? Est-ce qu'on a eu envie de vouloir aider? Parce que c'est vrai que quand on est derrière un livre, on vit beaucoup l'action, on vit beaucoup le moment, on a envie de savoir. Donc en fait, ça va plus loin que ça. Hein. C'est vrai que c'est pour pas laisser les gens seuls, pour pouvoir parler plus profondément en fait de ce qu'on peut ressentir à travers un livre.
Des fois, le livre est un prétexte pour aborder des thématiques qu'on n'aborderait pas forcément dans un autre cadre. Vous imaginez ce club plutôt comme un espace de discussion vraiment libre ou comme un rendez-vous littéraire un peu plus cadré? Est-ce que ça va dépendre aussi peut-être des rencontres et des thématiques?
Eh ben, je veux vraiment pas que ça soit quelque chose de scolaire. En fait, j'ai choisi Dealer de Cookies aussi parce que on se sent comme à la maison, c'est un endroit qui est chaleureux. Je sais que je voulais que ça soit vraiment une safe place. Donc vraiment un moment où on peut partager, échanger sans jugement. Et je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on puisse venir aussi à Dealer de Cookies pour le Blabla Club sans forcément avoir lu le livre. Même si on veut juste écouter, si on veut s'intéresser, si on est curieux. Vous pouvez même venir si vous n'êtes pas un grand lecteur. Je veux vraiment de l'accent sur ça. Pourquoi pas le devenir carrément? Mais je veux pas que ça soit quelque chose de scolaire. C'est pour ça que j'ai vraiment nommé Bouquin et Blabla Club. Parce que je trouve le mot un peu vulgaire, entre guillemets, du côté positif. Hein. Donc je voulais pas que ça soit quelque chose de cadré, blabla, parce que vraiment il y aura des échanges. Je veux que ça parte, je veux que ça vienne. Il y aura pas de levée de main pour pouvoir s'exprimer, vraiment. Je veux que les gens puissent se mélanger sans avoir à se donner la parole. Donc je veux vraiment que ça soit quelque chose de chill, vraiment dans un salon de thé, on discute autour d'un livre sans vraiment de cadrage, quoi.
C'est aussi l'objectif de Dealer de Cookies, finalement, de s'ouvrir et d'ouvrir la porte à qui a envie de le passer. Comment a été reçue justement votre proposition là-bas?
Et ben, ma proposition, elle a été très très bien reçue parce que je connais Roïda Ayaj, donc la créatrice de Dealer de Cookies. Et en fait, on partage les mêmes valeurs du partage, de l'accueil, vraiment du non-jugement. Donc en fait, ça a été très très bien recueilli et puis en plus ça va donner aussi un coup de pep supplémentaire à Dealer de Cookies qui marche très bien en ce moment. Je sais qu'il y a aussi de la poésie qu'ils font là-bas, donc en fait on mélange beaucoup de cultures à Dealer de Cookies et je trouve que nos valeurs elles sont vraiment partagées et que c'est un bon concubinage. Après je dis pas que Bouquet Blabla Club restera fixe, je sais qu'on va se déplacer aussi dans des endroits où les personnes ne peuvent pas se déplacer, je pense aux EHPAD et également au milieu pénitentiaire. Je suis en train de voir pour ce projet-là. Mais en tout cas, c'est vrai que là, pour le moment, tous nos rendez-vous vont se passer là-bas parce que c'est vraiment un endroit chaleureux où je veux vraiment mettre l'appui sur ça aussi. Si on n'a pas les moyens de s'acheter un livre, parce que je sais que ça peut coûter cher, on va aussi faire un projet de s'échanger nos livres entre nous parce que je sais que ça peut coûter hyper cher d'acheter un livre. Donc l'idée, c'est de s'échanger nos livres. Dealer de Cookies, si t'as pas les moyens d'acheter un cookie, c'est pas grave parce que il y a les cookies suspendus. Donc en fait, dans tous les cas, tu seras pas seul sans ton cookie. En fait, c'est vraiment l'idée globale que je voulais partager à travers ce projet avec Dealer de Cookies.
J'ai pu voir même en fait qu'il y a aussi le désir de faire vivre Bouquin et Blabla Club à travers les réseaux sociaux via des suggestions, des recommandations de livres qui peut-être t'ont touché, toi Yasmine.
Et ben en fait, je voulais vraiment faire marcher ça aussi sur les réseaux, même si ça prend un taf énorme, parce que je sais que malheureusement c'est comme ça qu'on commence et c'est par là que tout commence maintenant en 2026, les réseaux sociaux. Donc je sais que je me suis inspiré pas mal de comptes que je suivais auparavant. Et en fait, j'aime beaucoup échanger en fait, à travers l'espace commentaire avec des personnes que je ne connais pas, des personnes qui m'envoient... J'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages privés pour m'expliquer que le projet était trop cool et qu'elles se sentaient seules. Et en fait, c'est vraiment là que je voulais les résultats, en fait, et ça marche. Et en fait, beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils allaient venir le 25, qui échangent, qui like mes stories... Aussi, beaucoup de soutien entre nous. J'ai beaucoup de personnes qui sont abonnées, qui font les mêmes projets que moi, mais dans d'autres villes, ou juste sur les réseaux avec des blogs. Et en fait, beaucoup de soutien dans ce domaine-là. Et je voulais vraiment partager ça sur les réseaux pour montrer qu'en en fait, il suffit d'y croire. Parce que moi, après, mon rêve, c'est d'ouvrir mon café librairie. Donc en fait, il faut bien commencer par quelque chose. Donc je me dis, en fait, il suffit d'y croire. Là, je me suis dit 2026, c'est l'année, je lance mon compte Insta. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un vrai travail parce que en suivant l'algorithme et tout, il faut vraiment être à fond sur les réseaux. Mais pour l'instant, ça marche bien. J'essaie vraiment de tendre le bâton pour qu'on puisse tous échanger ensemble. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien.
Il y a des chiffres qui montrent que les jeunes lisent de moins en moins. Est-ce qu'autour de toi, tu le constates ou est-ce que finalement, il y a peut-être un retour aussi du livre, notamment via des livres comme La femme de ménage qui finalement peut-être ont permis de retrouver un goût à la lecture pour certains ou certaines?
Eh ben, moi, je sais que autour de moi, j'ai pas mal de copines qui lisent. Après, j'imagine qu'on s'entoure de personnes, on ressemble, quoi. Mais j'ai pas mal de copines qui lisent. Et je sais que si on a ces stats aujourd'hui, je veux pas rentrer dans des préjugés, etc. Mais c'est, je pense, parce que il y a la génération qui, je mets des gros guillemets, hein, mais qui a un peu honte de lire. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, je sais que quand je bouquinais à la fac, par exemple, ça me regardait un peu de travers en mode, bah, tu veux pas venir en pause avec nous, jouer, enfin, faire du ping-pong. Et c'est génial, hein, c'est ce que je fais et tout, mais j'aime bien parfois être avec mon livre et je sais que ça peut être un peu mal vu et un peu catégorisé comme tu nous fais la vieille, quoi. Alors que pas du tout. Donc je pense qu'il y a des stats qui peuvent être un peu biaisées par rapport à ce côté où on se dit ça, c'est pas pour les jeunes. Après, je sais que j'ai beaucoup de copines qui lisent, pas forcément les mêmes choses, hein, ça va être axé sur d'autres formes littéraires, mais je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de moins de jeunes qui lisent. Après, ça coûte hyper cher de lire, donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Je sais que moi j'achète pas mal mes livres au Secours Populaire ou à Emmaüs, donc franchement on a des livres pour 1 ou 2 euros, mais il n'y a pas forcément les nouvelles sorties. Donc en fait je peux comprendre le côté que les jeunes lisent moins, parce que aussi c'est hyper cher et il y a moins d'aide pour s'acheter des bouquins. Donc ce que je peux comprendre, mais je trouve ça dommage, parce que dans tous les cas, dans toutes les formes de lecture, que ça soit autobiographie sur l'histoire ou même des romances ou des thrillers, etc., ça nous emmène vraiment ailleurs et je pense que ça nous aide à percevoir les choses d'une autre façon. Donc ouais, je trouve ça dommage, et c'est aussi le but de Bouquin et Blabla Club, de réunir une nouvelle communauté de non-lecteurs pour qu'ils puissent devenir à leur échelle des nouveaux lecteurs, quoi.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement bouleversé, qui a déclenché quelque chose? Des fois dans nos vies, ça a un impact dans le temps. Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête quand je te dis ça?
Eh ben, Everything, ouais. Ça m'a un peu... Franchement, ce livre, j'en parle tout le temps, parce que ça m'a vraiment touchée. En fait, c'est une relation entre sa mère et sa fille qui la materne trop, parce qu'elle lui dit qu'elle est malade et du coup, elle n'a pas le droit de sortir, elle a le droit de rien faire. Elle regarde la vie à travers sa fenêtre, elle est un peu en mode « quand est-ce que moi j'aurai ça ?» Et en fait, elle rencontre un garçon et elle va s'échapper. En fait, elle va se rendre compte que sa maman lui a menti, qu'elle était pas malade et qu'elle voulait la garder pour elle. En fait, c'est un peu ce côté évasion, prendre des fortes décisions qui m'a marqué dans ce livre. Le fait de, même s'il y a des fortes têtes au-dessus de nous qui nous disent quoi faire ou autre, pas hésiter à prendre son envol si on sait que c'est la meilleure chose, et de surtout oser. Là, je sais que c'est un projet que j'ai depuis longtemps et que j'en parle depuis longtemps avec mes copines, et je me suis dit, bah, c'est le moment de se lancer, pourquoi pas. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc j'espère que ça va fonctionner. Mais j'ai plusieurs livres comme ça qui m'ont touché à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est important de lire, parce qu'on peut retrouver pas mal de thématiques qui nous touchent sans qu'on s'en rende compte.
Le rendez-vous qu'on donne à l'auditeur de l'autre radio, c'est donc le dimanche 25 janvier à 10h de Cookie, à partir de 15h. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on vient comme ça?
Eh ben, le mieux, c'est de m'envoyer un petit message sur Instagram pour que moi, je sache combien vous êtes, parce qu'à la fin, vous allez repartir avec un petit quelque chose. Donc, le mieux, c'est que je puisse savoir combien vous êtes pour oublier personne. Après, si y a des clients de dealers de cookies qui viennent et qui veulent s'asseoir à notre table, il n'y a pas de souci. Je prévois toujours un petit truc en plus. Mais ouais, le mieux, c'est que plutôt de m'envoyer un message sur Instagram. J'évite tout ce qui est formulaire et tout, parce que j'ai vraiment envie que ça touche aussi à toutes les générations, Bouquin et Blabla Club. Donc, j'ai pas envie que ça soit trop compliqué pour les générations au-dessus de nous. Donc, juste un petit message sur Insta pour me dire que vous venez, et ça suffira.
Et donc, on retrouve en tapant tout simplement Bouquin et Blabla Club sur Instagram.
C'est
et
ça.
Là, on te retrouve.
Mon arrobas, c'est bouquinclub.laval. Je voulais vraiment spécifier Laval pour que les gens puissent trouver. Sinon, Bouquin et Blabla Club, c'est mon nom. Donc, dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Yasmine, d'avoir été avec nous. Ce sera aussi l'occasion, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, de retrouver les prochains rendez-vous que tu nous donnes. Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. C'est un moment attendu dans cette émission, c'est surtout un grand retour, celui de Priscilla et la chronique et sa chronique juridique. Bonne année, meilleurs vœux, mais avant toute chose, Priscilla, carré, duo ou cash?
Cash, toujours du cash.
Donc c'est votre retour dans la JT du local, on est content de vous retrouver, Priscilla.
Et oui, j'ai été aspirée par la vie parisienne et le tumulte de la télévision, mais me revoici sur mon média favori, la radio. Bonjour, bonjour Margot, bonjour mes chers auditeuristes de l'enfer. Vu l'état actuel du monde, je ne vais pas vous souhaiter une bonne année 2026, je me contenterai de vous souhaiter une année 2026, ce sera déjà bien. Aujourd'hui, je vous parle droit international. International rights, derecho internazionale. Pour les autres langues, installe Duolingo. Parce qu'à moins d'avoir vécu au fond d'une cave en Bretagne en hurlant « Ouais, les dolmens, mais notre dolmen !» Jean-Michel à peu près. Vous êtes normalement au courant que le Venezuela a subi une attaque à grande échelle. Et quand je dis grande échelle, c'est pas celle des pompiers sexy du calendrier. D'ailleurs, Margot, vous avez acheté votre calendrier des Pompéiers fin décembre?
Non.
Bah, faudra pas vous étonner si vous finissez en enfer ou à Caracas. Donc au Venezuela, c'est plutôt les pompiers pyromanes avec cette attaque d'envergure de la part des dégâts unis d'Amérique aboutissant à la capture de Nicolas Maduro. Perso, moi, quand je fais une capture, je me contente d'un petit contrôle C. Mais non, les bêtas unis d'Amérique, eux, ils envoient l'armée et les GI.
Qui est derrière tout ça?
Mais c'est bien sûr, c'est notre petit canard. Vous avez vu, ma langue n'a pas fourché. Notre Donald Trump, qui brille comme une veilleuse dans la nuit tellement il est blond. Vous le connaissez, c'est le mec qui collectionne les montres parce qu'il sait qu'aucune femme lui donnera l'heure. Donc le canard, il a eu une éjaculation précoce en annonçant à la face du monde le 3 janvier, et donc à la télévision, le succès de son opération secrète menée par les forces armées américaines, en menant de force le président vénézuélien et son épouse à New York pour y être jugés pour importation de cocaïne aux États-Unis et narcotrafic. En France, on est plus habitué au sarcotrafic. Mais il a tout compris de travers, Daffy Duck. Avant de prostituer le Venezuela, il faut le rendre accro à la coque, pas l'en priver.
Mais quelle est la raison pour vous de tout ce charivari?
Officiellement, il s'agit de l'arrestation de deux fugitifs recherchés par la justice américaine et le Pentagone, selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, homme le plus objectif du monde. Ainsi, il ne s'agirait pas d'une action militaire exigeant l'autorisation du Congrès américain. Première violation, cette fois du droit interne américain par Donald Duck. Et qui ajoute « Non, ce n'est pas une invasion, nous n'avons pas occupé un pays, c'est une opération de police. » Ce qui montre qu'au sens propre comme au figuré, il a du tout payé le gars. Toutefois, cette lecture des événements est contestée. Ben, tu m'étonnes, cette opération de lutte contre le narcotrafic est dénoncée par plusieurs pays latino-américains comme le Mexique, le Brésil et la Colombie. La Colombie qui est aussi menacée par Trump. Reprenez Shakira ou on vous envahit. Heureusement, chez nous, Emmanuel Macron affirme que la méthode utilisée n'est ni soutenue ni approuvée par la France qui défend le droit international. Allez, mange-toi ça, Trump. T'as peur, hein? T'as le bacon qui descend au fond du burger, hein? En vrai, c'est comme pour le Groenland. Le Manu, il ne sait pas quoi faire face aux mastodontes américains. Il est plus indécis qu'un bisexuel devant le couple Kylie Jenner et Timothée Chalamet. Mais lequel choisir? Ils sont tellement beaux, tous les deux. Et comme en Europe, on est des foufous. On n'a vraiment pas notre langue dans la poche. Ce qui serait de toute façon physiquement très douloureux, mais utile dans certaines situations. Clin d'œil appuyé à Margot. Les réactions n'ont pas tardé. Notamment celle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui porte un nom de méchante de Disney ou de James Bond. Elle a rappelé que toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Le problème, c'est que Trump, il n'entend pas bien vu son grand âge et ses petites habitudes. J'aimerais pas faire le ménage sous le bureau de la Maison Blanche. Bref, il n'entend pas bien, donc quand tu lui dis de respecter la charte, bah ça prend pas le même sens que pour nous. Je sais qu'il parle pas français, donc ça veut rien dire, mais je m'en fous, c'est ma chronique. En effet, l'article 2 de la Charte des Nations Unies stipule que les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Dans cet article, pourtant plein de bon sens, encore une fois, trop de mots faisant tilt à l'oreille de coin-coin Trump. Membres, relations, emploi de la force. En revanche, s'abstenir, pas sûr qu'il comprenne. Du coup, ce n'est pas sa faute à Canard WC, ce sont les textes de l'OTAN qui sont mal rédigés et trop difficiles à comprendre. Surtout quand ton analyse de texte se limite à « c'est qui a la plus grosse ?» Reste que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais autorisé une telle opération. Et que mon petit doigt me dit que le Venezuela n'a pas dû autoriser les bombardements sur son propre territoire. Oui, mais Picsou, il est malin. Pour lui, c'est légal car c'est de la légitime défense. Sauf que, surprise dans le hot dog, ça ne s'applique pas dans ce cas puisque le Venezuela n'a pas attaqué militairement les États-Unis au préalable. Quant à la capture de Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores... Avouez que je suis la première à citer son nom. Il s'agit également d'une violation des règles de droit international, notamment eu égard à l'immunité réservée aux chefs d'État et aux meilleurs candidats de Koh-Lanta. Normalement, la procédure pour arrêter quelqu'un qui ne vit pas aux États-Unis est de procéder par extradition. Mais ici que nenni, hein, Calimero Trump... Ouais, Calimero, hein, j'avais plus trop de noms de canards célèbres. Hein. Donc Calimero Trump a préféré une arrestation militaire clandestine. Et hop, nouvelle violation de la Charte des Nations Unies, dont les États-Unis sont signataires et dont Donald Trump est constitutionnellement tenu de veiller à l'application. Violer la Charte des Nations Unies est donc une violation de la Constitution américaine, c'est QFD. J'ose pas imaginer comment il interprète cette phrase avec son sonotone, le Saturnin. Oh, nouveau canard, comme quoi les canards, finalement, ça court les rues. Bref, on ne peut pas dire que dans cette situation, les avis divergent. Ce qui, en même temps, ferait peut-être un peu beaucoup pour un seul homme. Je vous laisserai écouter si vous n'avez pas compris. Et tout ce charivari, pourquoi ? Le Trump, il veut tout refaire au Venezuela. Mais gars, t'es président des États-Unis, tu bosses pas chez Maison du Monde. Va refaire la déco de ta sécurité sociale et enlever les taches de sang dans les rues de Minneapolis. T'as du boulot déjà, boy.
Mais pourquoi fait-il tout ça, sinon Priscilla ?
Parce qu'il a trop joué au jeu de société risque quand il était petit. Le genre de jeu qui augmente ta virginité de 5 points bonus. Je n'ai pas vraiment d'explication. Donc pour conclure, les États-Unis, c'est plus vraiment le phare qui éclaire le monde. C'est plutôt la statue de la puberté. Des caprices et des gros boutons sur lesquels il ne faut surtout pas appuyer. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup Priscilla, ça fait plaisir de vous retrouver dans le studio de l'autre radio. Et alors je rappelle à l'auditeur qui nous écoute, qui est peut-être arrivé en cours de route et qui ne sait pas trop sur quoi il est tombé, que l'on peut retrouver votre chronique en podcast sur le site de l'autreradio.fr. À très bientôt.
À très bientôt.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Joël, Yasmine et Priscilla d'être venues dans le studio de l'autre radio aujourd'hui. Merci à Lénaïque Folzour qui signe la musique originale de cette émission. Restez bien à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h ce sera l'émission Solénoïde, un voyage sonore sans destination précise. L'émission sera suivie de la discothèque de Panama Al Brown à 20h. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local, nous serons avec les abeilles mayonnaises et on se demandera ensemble comment les abeilles font société. D'ici là, faites de votre mieux, soyez indulgents avec vous-même et s'il vous plaît, faites le bien.
Alors Mimi, on leur dit au revoir ?
Oh non, juste à demain.